Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à tous, si vous nous retrouvez dans Europe Soir, on est ensemble jusqu'à 20h avec le journal dans quelques secondes et à 19h20, à ne pas rater le grand débat consacré ce soir au tourisme spatial. Elon Musk, Jeff Bezos et les autres grands millionnaires des nouvelles économies sont en train de démocratiser l'espace. Alors jusqu'où pourra-t-on bientôt aller poser un pied sur la Lune ? Comme on va faire du ski ? Alors ça coûte nettement plus cher évidemment, mais à terme, pourquoi pas, on en débattra avec nos invités, notamment le spationaute, Monsieur Clairvoy, il sera avec nous. D'abord le journal, avec Christophe Lamarre. Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe.
C'est une inondation qui est un peu plus haute que les autres. 98% de notre territoire est sous l'eau.
L'eau continue de monter à Couture-sur-Garonne dans le Lot-et-Garonne, le département placé en vigilance rouge inondation par Météo France.
La Russie propose à un laboratoire allemand de produire son vaccin Sputnik, peut-être le prélude à une future distribution du sérum russe en Europe.
Le procès de la mort du petit Tony devant les assises de la Marne, la cour a examiné la personnalité des deux accusés, le beau-père et la mère de l'enfant.
On appelle ça l'affaire du siècle. L'État français condamné à verser un euro symbolique pour ne pas lutter suffisamment contre le réchauffement climatique. Explication tout à l'heure.
La mobilisation des agriculteurs de Haute-Garonne contre la grande distribution accusée de demander des prix toujours plus bas.
Et puis le Vendée Globe avec une arrivée. Le Vendée Globe qui vient de se terminer. On en parlera dans le journal, vous verrez. La météo avec Anissa. Un temps très couvert au programme demain, ma chère Anissa.
Oui, nous aurons moins de pluie, Julien, mais le ciel sera nuageux sur une grande partie du pays, avec beaucoup de brouillard demain matin. Prudence, et toujours 19 départements en vigilance, avec des crues très importantes dans le sud-ouest. Météo complète à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et vous venez de l'entendre avec Anissa Haddadi, la prudence est plus que jamais de mise dans le sud-ouest, toujours balayée par les intempéries et les risques d'inondations. Certaines communes sont envahies par les eaux et pratiquement coupées du monde. C'est le cas de Marmande dans le Lot-et-Garonne.
Autre commune touchée, Couture-sur-Garonne. Là, le niveau d'eau atteint 9,40 m. C'est tout simplement du jamais vu depuis 40 ans. Jean-Michel Moreau, le maire de la commune, c'est Zoé Palier qui l'a joué au téléphone alors qu'il était sur son bateau.
Nous, on est en plein au milieu de la Garonne. À 360 degrés, je vois de l'eau. Je vois une digue qui nous protège théoriquement pour les petites inondations, mais qui est quasiment recouverte. On va dans une ferme qui est isolée, qui n'est pas protégée par les digues. Donc, c'est une personne seule, isolée, de 90 ou 92 ans. À son âge, il ne peut pas prendre le bateau pour se rendre au village, puisqu'il lui faudrait 2 ou 3 kilomètres en bateau. Donc, c'est nous qui faisons l'inverse, c'est nous qui allons le rencontrer. On connaît des inondations plus ou moins grandes, tous les 4 ou 5 ans, mais c'est une inondation qui est un peu plus haute que les autres. 98% de notre territoire est sous l'eau, donc on est bien obligé de les jeunes, les anciens, etc.
Quoi. Jean-Michel Moreau, le maire de la commune de Couture-sur-Garonne, joint au téléphone par Zoé Palier.
Le vaccin russe n'a pas encore le feu vert de l'Agence européenne des médicaments. Les Russes n'ont d'ailleurs toujours pas fait officiellement la demande, mais en attendant, ils essaient de prendre de l'avance.
Anticiper un éventuel oui de l'Europe reste la question de la production de ce vaccin et on s'oriente vers une coopération entre les Allemands et les Russes, Hélène Gaulle.
Oui, car les vaccins distribués en Europe doivent impérativement être produits sur notre continent dans des sites de fabrication inspectés, homologués dans le respect des normes européennes de sécurité en matière de vaccins. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'Angela Merkel et Vladimir Poutine en ont parlé. Et déjà, Merkel avait signalé à l'époque qu'une production en Allemagne pourrait être possible. En fait, Berlin a clairement joué les intermédiaires et c'est confirmé officiellement depuis aujourd'hui. Le laboratoire IDT Biologica, basé dans l'est de l'Allemagne, à Dessau, pourrait libérer une partie de ses capacités de production pour Sputnik V. Cette biotech de 1400 salariés d'envergure internationale était elle-même dans la course au vaccin jusqu'à peu. Elle a abandonné son propre projet il y a un mois, car les premiers essais cliniques n'étaient pas satisfaisants. Mais elle avait anticipé une éventuelle future production dans son usine, notamment grâce à une aide publique de 114 millions d'euros reçue l'an dernier. Et comme elle le fait déjà pour AstraZeneca, elle pense donc pouvoir utiliser une partie de ses installations pour le vaccin russe. Cela nécessite toutefois un processus de reconversion biotechnologique pointu. Il faut faire valider chaque étape. Tout ça va durer plusieurs mois, sans doute jusqu'à mai ou juin, selon le patron de IDT Biologica.
Merci Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Berlin. La crise sanitaire et ses conséquences économiques, la récession frappe l'Europe avec un recul du PIB l'an dernier dans la zone euro de 6,8%. L'Espagne, l'Italie et la France sont les pays dont l'économie a été la plus touchée.
L'Italie qui compte sur Mario Draghi pour sortir d'une autre crise politique, celle-là. L'ancien président de la Banque Centrale Européenne est chargé de former un nouveau gouvernement.
Aux Assises de la Marne, on attend l'interrogatoire du beau-père et de la mère du petit Tony. Le tribunal s'est penché sur leur personnalité aujourd'hui.
Et les témoins et les experts ont défilé à la barre depuis ce matin. Ils dessinent le portrait d'un couple déséquilibré, Marion Dubreuil.
Il y a d'un côté une mère effacée, réservée, incapable de vivre seule. Caroline subit son parcours, ses rencontres, d'après l'enquêtrice de personnalité qui l'a interrogée. Elle dit avoir été violée par son beau-frère, mais dissuadée par sa propre mère de déposer plainte. De l'autre, un jeune homme violent qui multiplie les conquêtes. Deux ex-petites amies de Loïc l'ont décrit à la cour comme un manipulateur, un monstre. L'une a rapporté plusieurs épisodes de violence. Une fois, il l'a saisie à la gorge. Une autre, elle lui échappe en s'enfermant dans sa chambre et il détruit son appartement. Loïc, qui a été lui-même un enfant battu, n'a pas de travail ni de formation. Il passe ses journées à boire, fumer du cannabis, jouer aux jeux vidéo. Un jeune homme immature pour qui Tony est un gêneur dans sa relation avec Caroline. Loïc voyait en lui un rival, d'après le psychiatre qui l'a expertisé. Un rival dont il fallait peut-être se débarrasser. Il a d'ailleurs affirmé à l'enquêtrice de personnalité qu'il s'était mis d'accord avec Caroline avant la mort de Tony pour confier la garde du petit garçon à son père et avoir un autre enfant ensemble.
Marion Dubreuil en direct des Assises de la Marne. Autre procès, celui des comptes de la campagne présidentielle de 1995 d'Edouard Balladur. La Cour de justice de la République rendra sa décision le 4 mars. Un an de prison avec sursis, c'est la peine réclamée à l'encontre de l'ancien Premier ministre. Deux ans avec sursis ont été demandés pour son ancien ministre de la Défense, François Léotard.
La victoire des associations de défense de l'environnement, l'État est donc condamné pour atteinte au climat.
Le tribunal administratif lui reproche de ne pas respecter ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Il devra verser 1 euro aux 4 ONG qui avaient porté plainte, condamnation symbolique. Mais les associations parlent d'une victoire historique. C'est un petit peu plus compliqué que ça apparemment, Virginie Salmen.
Oui, pour les années passées, le juge a effectivement reconnu une faute de l'État qui n'a pas respecté ses propres objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre. Donc, l'État est condamné pour le préjudice moral causé aux 4 associations de défense de l'environnement à verser 1 euro symbolique, mais l'État n'a pas à réparer ce préjudice, et ça c'est essentiel. Pour l'avocat spécialiste en droit de l'environnement, Arnaud Gossement, cette décision n'est finalement pas si historique que ça.
Je ne pense pas sur le fond que ce soit historique pour une bonne raison. Qui est responsable dans cette affaire? C'est l'État. Mais l'État, c'est pas un gouvernement, un président de la République ou un ministre. C'est nous tous, l'État. L'État, c'est à la fois une administration, un territoire, une population, c'est nous tous. Et là, je crois qu'il y a un petit malentendu. C'est que si les personnes qui ont signé la pétition, notamment, pensent qu'avec ce recours, c'est la responsabilité individuelle d'une personne qui sera engagée, elles seront nécessairement déçues. C'est une responsabilité collective qui est d'abord reconnue par le juge.
Alors c'est en fait un préjugement. Il y a une deuxième partie attendue d'ici 2 mois. C'est celle de savoir si le tribunal va obliger l'État à faire cesser ce préjudice écologique. Alors le juge ne pourra pas dire il faut par exemple rénover 30% des bâtiments mal isolés ou interdire tel type de liaison aérienne pour faire baisser nos émissions. Mais il pourrait forcer l'État a tout simplement respecter ses propres engagements en matière de climat.
La satisfaction quand même des ONG qui défendent l'environnement, la colère et le désarroi des agriculteurs de Haute-Garonne. Ils ont manifesté toute la journée devant plusieurs grandes surfaces.
Oui, ils reprochent à la grande distribution de faire des bénéfices sur leur dos. En clair, elles leur achètent leurs produits toujours moins chers, mais une fois en rayon, le prix des œufs, du lait par exemple, ne cesse de monter. Les agriculteurs sont décidés à ne pas se laisser faire. Benjamin Péter, vous êtes en direct de Roques-sur-Garonne.
Oui, pour eux, le compte n'y est pas, et ce malgré la loi Egalim qui était censée garantir des produits français bien rémunérés. Pour Jean-François Lamassé de la FDSEA 31, la grande distribution continue de tirer les prix d'achat de leurs produits vers le bas.
La grande distribution ne joue pas le jeu. Nous, aujourd'hui en France, on a un certain coût de production, il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas vendre des produits en dessous le coût de production. Quand un produit est relativement bas, il faut se poser les questions pourquoi il est bas. Bien souvent, quand vous avez une promotion, si c'est un vrai produit français, c'est l'agriculteur qui laisse sa peau. Si ce n'est pas ça, c'est que le produit vient de l'étranger.
Alors ça concerne aussi bien le le lait, les œufs, les fruits et légumes que la viande. Benjamin est éleveur de bovins à Capins. Pour lui, la grande distribution prend une marge beaucoup trop importante.
Quand vous allez faire les courses, vous avez un caddie de 150 euros, vous n'avez rien dedans, quoi. Le souci, c'est que c'est même pas nous qui en profitons, quoi. Au jour d'aujourd'hui, on va vendre autour de 2000 euros, par exemple, une carcasse. Une fois commercialisée, peut-être, elle sera vendue 10 000, quoi. Ils prennent un produit, hop, ils le transforment, ils le remettent là et ils prennent une marge énorme, quoi. Pas normal.
Et il demande au gouvernement de contrôler davantage les prix, d'une part, et de s'assurer que les produits étiquetés France dans les rayons ne sont pas simplement des produits importés qui auraient été transformés en France.
Benjamin Péter en direct de Roque-sur-Garonne.
Le football à présent avec une belle soirée en perspective de Ligue 1 absolument complète.
Et oui, c'est assez rare pour être souligné. La 23e, 5 matchs viennent de commencer. Lille Dauphin du PSG au classement se déplace à Bordeaux et 5 autres matchs sont programmés à 21h dont PSG Nîmes.
Le Vendée Globe, une semaine après l'arrivée du vainqueur, il y a encore des hommes et des femmes en mer.
Et la première d'entre elles vient d'arriver au Sable d'Olonne. Clarisse Kremer termine 12e après 87 jours de navigation. Mais pour situer sa performance, sachez qu'elle a mis moins de temps qu'Hélène MacArthur qui avait terminé 2e en 2001. Clarisse Kremer établit le temps de référence féminin dans ce Vendée Globe. Elle est évidemment très heureuse de retrouver enfin la terre ferme.
Je suis contente, mais j'avoue que je suis un peu intimidée, un peu perdue. En 3 mois, on vit 10 ans d'émotion. C'est un accélérateur de vie, un condensé de vie. J'ai pleuré de joie tous les jours. J'ai pas pleuré de désespoir tous les jours. Mais ouais, on est un peu... C'est quelque chose en termes d'émotion dans les Globes. Mais c'est vrai que le temps de préparation était un peu court et je l'ai senti dans la première semaine où j'étais un peu paumée et un peu... intimidée par tout ce qu'il y avait à faire devant moi. Mais ça s'est finalement assez bien passé, donc c'est chouette. La femme la plus rapide sur un Vendée Globe, et ben écoute, merveilleux, mais c'est un sport mixte et il n'y a pas de classement féminin.
Clarisse Kremer, 12e. Ça fait du bien d'entendre ce sourire, Clarisse Kremer, 12e et première femme au classement du Vendée Globe.
C'est vrai que ça fait du bien. Merci Christophe Lamarre. Pour le journal, un coup d'œil au temps avec Anissa, nuageux et doux pour ce jeudi. Voilà à peu près le programme.
Oui, c'est ça, c'est bien résumé. En effet, Julien, malgré une petite baisse des températures le matin, avec le retour des valeurs négatives, hein, puisqu'en Haute-Loire, nous aurons moins 1 degré au Puy-en-Velay. Demain après-midi, les températures seront quasiment les mêmes qu'aujourd'hui. Des températures proches des 20 degrés dans le sud, des températures qui sont au-dessus des normales de saison. Alors dans le ciel, le temps est un petit peu plus calme demain avec moins de pluie. Mais ce n'est pas un temps sec, puisque dans le nord-ouest, les Landes, l'Auvergne, les Alpes, nous aurons encore quelques petites averses. Dans l'après-midi, ces averses toucheront toute la moitié nord du pays. Attention demain matin aux nombreux nuages bas, hein, nous aurons dans le nord, l'Est, la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen, de nombreux brouillards qui seront parfois même épais, des entrées maritimes aussi au bord de la Méditerranée qui auront du mal du côté du Languedoc à se dissiper. Et puis je vous rappelle cette information importante, 19 départements sont en vigilance orange crue et le Lot et Garonne est en vigilance orange rouge puisque nous avons dans ce département une crue majeure, plus de 9 mètres hein, dans le secteur de Marmande. Donc prudence, l'eau continue de monter. Et même si demain les pluies seront moins fortes, oui, ça ne sera pas suffisant pour amorcer les premières décrues. Ça va être très très long, puisque dans les jours qui arrivent, la pluie sera de retour encore ce week-end.
Bien, soyez extrêmement prudents donc. Et puis la Seine aussi continue de monter en amont de Paris notamment. On aura l'occasion d'en parler. Merci Anissa, on vous retrouve demain évidemment à partir de 18h. Dans quelques secondes, on parle du tourisme spatial avec nos invités. Vous verrez, c'est passionnant et notamment le spationaute Jean-François Clairvoy. D'abord la carte blanche signée ce soir Nicolas Bouzou.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Oui, ce soir, on est avec l'économiste Nicolas Bouzou. Bonsoir.
Bonsoir.
Et alors, en bon économiste, vous avez une proposition à faire pour rouvrir les restaurants et les salles de spectacle. On a hâte de l'entendre.
Oui, alors déjà, un point économique, hein, notamment sur le secteur du spectacle qui est évidemment incroyablement touché par cette crise. On a eu une étude du cabinet de conseil Ernst & Young qui porte sur l'Europe hein, et qui a montré que la baisse de revenus pour ce secteur était de 30% en 2020. Les arts de la scène sont les plus impactés, moins 90% de revenus. La musique, c'est moins 75%, les spectacles musicaux. Les cinémas, c'est moins 75% aussi. Et l'UNESCO nous dit qu'un musée sur 8 à travers le monde risque de ne jamais rouvrir si la crise dure.
Voilà, crise terrible, évidemment, mais vous avez heureusement une solution. Oui, que alors, proposez-vous, Nicolas?
Alors, évidemment, il y a déjà la question de la vaccination, mais le problème, c'est qu'en France, et même plus généralement en Europe, la vaccination patine. On a vacciné très peu de personnes et on est déjà en rupture de vaccins. Et donc, on sait bien qu'il faudra du temps pour atteindre l'immunité collective. Et d'ici là, il faut qu'on trouve un moyen de rouvrir les restaurants, les cinémas, les salles de spectacle, les salles de sport aussi, d'ailleurs, dont on parle assez peu. Il y aura éventuellement une solution, hein, c'est celle qui commence à être mise en place aux États-Unis, ce sont les autotests. Les autotests, ce sont des tests Covid-19 que vous faites vous-même, ça peut être de la salive, ça peut être dans le nez, dans la gorge, on le fait soi-même et ça vous donne le résultat via votre smartphone en 15 minutes ou 30 minutes.
Alors, et c'est efficace?
Alors c'est efficace à peu près à 95%, mais même si c'est moins efficace que ça, je dirais qu'à la limite c'est pas très grave parce que, vous savez, je suis pas médecin mais j'ai une formation d'économiste et je sais faire des probabilités et donc si un test est modérément efficace mais qu'un très grand nombre de gens l'utilisent, en réalité c'est plus sécurisant qu'un test très efficace mais utilisé par très peu de gens.
Et donc, on vous suit.
On peut parfaitement imaginer que l'on achète ces tests. Les industriels nous disent qu'ils sont prêts à en produire. Et les gens qui sont testés négatifs, eh bien, pourraient entrer, en attendant d'être vaccinés, bien évidemment, ils pourraient rentrer au cinéma, au restaurant, au spectacle ou dans une salle de sport.
Très bonne idée, on se fait son petit test soi-même, on montre son smartphone à l'entrée et hop, on a le droit d'assister à une séance de cinéma ou d'aller
prendre un bon dîner.
Alors qu'est-ce qu'on attend pour faire ça, Nicolas?
Eh bien, c'est le charme de notre pays, mais son côté un petit peu agaçant aussi, on attend les autorisations. Alors déjà, dans une radio concurrence ce matin, la présidente de la Haute Autorité de Santé a déclaré qu'elle rendrait un avis sur le test salivaire dans une dizaine de jours, parce que visiblement la crise n'est pas suffisamment grave pour qu'on soit plus pressé que ça. Pour les autotests, ça devrait être dans quelques semaines. Pour la crise sanitaire, je le rappelle, la plus grave depuis 100 ans et la crise économique la plus grave depuis 80 ans. On rêve, hein, après les masques et les vaccins, on serait capable de louper les autotests. Je pense qu'il ne faut pas tomber sur l'administration, c'est un sujet qui doit être traité au niveau politique et il faut accélérer les choses pour sauver nos restaurants, pour sauver nos artistes, pour sauver nos cinémas, pour sauver nos salles de sport.
Vous savez quoi, un jour on se fera une émission sur la modernisation de l'État. Je pense que vous avez des choses à dire là-dessus.
Je viendrai avec joie si vous m'invitez.
Nicolas, merci infiniment pour cette carte blanche.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Alors ce soir, dans le débat du Club des Idées, on va tutoyer, je le disais, les étoiles. On vous emmène dans l'espace, car cette fois, c'est parti. Le tourisme spatial prend enfin son envol, c'est le cas de le dire. Plusieurs missions sont en préparation, alors ça coûte évidemment encore un peu cher si vous n'êtes pas millionnaire, mais ça devient réalité. Et cela annonce peut-être, pourquoi pas, une nouvelle ère du tourisme demain. Imaginez un week-end en orbite, ou un grand voyage sur l'ISS, ou même plus loin. Alors rêve ou réalité, on en parle ce soir avec nos invités, et notamment Jean-François Clairvoy. Bonsoir.
Bonsoir.
Spationaute, fondateur de R0G, c'est un vol en apesanteur en avion et co-auteur du livre absolument passionnant, Histoire de la conquête spatiale, aux éditions Bac supérieur, sorti je crois l'an passé, en 2019. On en parlait également avec Michel Chevalet. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver, journaliste scientifique, expert des questions spatiales et fondateur de la société Science Vidéo Service. Et on en parle également avec Xavier Pascaud. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste des questions spatiales, auteur de Le Nouvel Âge Spatial, de la guerre froide au New Space, aux éditions du CNRS, sorti en 2017. Alors, avant de vous entendre, on s'est d'abord promené cet après-midi et puis on a demandé, comme ça, on a tendu notre micro, on a demandé aux Français si ça les bottait d'aller dans l'espace. Vous imaginez les réponses, on en écoute quelques-unes.
Si demain on pouvait prendre les billets, je les prendrais tout de suite sans hésiter. Se prendre un peu pour Thomas Pesquet avec ma fille. Tu voudrais aller en vacances dans l'espace?
Oui. Oui, voir les étoiles, l'univers.
Voir la Terre de loin, voir un petit peu les villes de loin comme ça, le jour, la nuit.
Je serais prête, pourquoi pas, à faire un petit prêt à la banque. Parce que là, c'est vraiment un rêve d'enfant.
M'imaginer d'être enfermée dans une capsule qui me catapulte dans l'univers, je serais terrifiée.
Est-ce que c'est terrifiant d'aller dans l'espace, Jean-François Clairvoy?
Alors, pour ceux qui sont claustrophobes, peut-être.
Combien de fois vous y êtes allé?
Quoique, trois fois.
Trois fois.
En navette spatiale, donc c'est assez petit. Mais celui qui a un peu le goût de l'aventure, qui sait qu'en regardant par le hublot, on voit plutôt l'infini que l'on ressent le confinement de la petite capsule, bien sûr, il faut y aller.
C'est une aventure. On s'est déjà parlé, puis je vous ai déjà reçu dans un certain nombre d'émissions. À chaque fois qu'on vous en parlait, vous avez évidemment les yeux qui brillent. Quand on l'a fait une fois, on rêve d'y retourner?
Ah oui, chaque expérience est aussi forte que la précédente. C'est une expérience extraterrestre à tout point de vue, sur le plan sensoriel, émotionnel, intellectuel, spirituel. C'est très, très fort.
Alors, après, on va parler du tourisme spatial, mais je voudrais vous faire réagir. On entendait cette dame qui disait, moi, j'aurais sacrément peur. Alors, les spationautes, les astronautes, ils sont très, très entraînés, évidemment, pour aller dans l'espace. Mais on a une petite appréhension quand les moteurs s'allument ?
Alors, je pense qu'on est conditionné. C'est-à-dire, on est formaté à être problème solver quand on est astronaute. C'est-à-dire, ça se passera pas comme prévu.
Tous les problèmes.
Voilà, il y aura des problèmes. C'est normal, c'est très compliqué. Donc, rien ne peut se passer exactement comme prévu. Et on sait qu'on s'en sortira parce qu'on s'est convaincu nous-mêmes par l'entraînement qu'on pourra s'en sortir. Mais il faut dire qu'au départ, on est sélectionné en vérifiant qu'on a les capacités pour faire ce genre de job. Donc, on n'a pas vraiment à développer une capacité de maîtriser le stress plus que la normale. C'est-à-dire, quand on est sélectionné, c'est-à-dire, le jury nous dit, on sait que vous êtes capable de le faire.
Ouais.
Déjà, ça donne une confiance en soi.
Ouais.
Après l'entraînement, cette confiance, on la développe.
Et puis, on répète les mêmes gestes des dizaines et des dizaines de fois.
70% du temps d'entraînement consiste à s'entraîner à des cas de panne ou combinaison de panne. Et de plus en plus compliqué.
Quand ça arrive, on est prêt.
Voilà.
Michel Chevalet, ça vous ferait rêver, vous, d'aller dans l'espace depuis le temps que vous nous en parlez de l'espace.
Oui. Écoutez, moi je dis, mon rôle, ça a été de sensibiliser le grand public à l'espace, de leur faire découvrir à travers la navette, évidemment.
Oui.
Là, notamment, j'ai fait des choses merveilleuses, et je l'en remercie encore, Jean-François Clairvoy, là, Billy Bob. J'ai pensé à un moment, ça va vous surprendre, mais en fait, c'est le président François Mitterrand qui, à la suite d'une transmission avec Tonini, était très fatigué. Il se lève, on était dans les salons de l'Élysée, il se lève, il dit « Monsieur Chevalet, prenez ma place. » Parce qu'il avait 10 minutes d'antenne, il n'en avait fait que 5. « Monsieur le Président, non, asseyez-vous. » Le fauteuil du président, allons donc, bon, un journaliste. Et puis, je fais ma vidéotransmission avec Tonini, puis à la fin, il me dit, il y avait Curien, ministre de la Recherche, et il dit, monsieur le ministre, parce qu'il se voit entre eux, notre jeune ami pourrait-il aller dans l'espace? Curien dit, bon, je pense que oui, bon. Et enfin, ils discutent, combien ça va nous coûter? 80 millions de dollars. Bon, monsieur le ministre, faites le nécessaire. Et donc, j'ai failli y aller.
Vous avez failli y aller.
Oui, être sélectionné. Mais bon, aux grandes dames d'ailleurs de la sélection du CNES, parce que j'aurais contourné tout le monde, mais c'était pas. Mais le problème, c'est que le président était très 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 malade, et donc il y a eu le.
Alors ça coûte pas si cher aujourd'hui d'aller dans l'espace quand on est touriste, mais ça coûte quand même des millions, évidemment.
Sur le fauteuil, sur le Soyouz, coûte encore à peu près ce prix-là. Hein.
Ça coûte ce prix-là. Bon, on va en parler avec les nouveaux acteurs du marché. Alors je précise, des touristes dans l'espace, c'est déjà arrivé. Il y en a déjà eu 8, mais c'était vraiment du domaine de l'expérimentation, puis c'était avec des États. Cette fois, ce qui a vocation à se démocratiser et ce qui change les choses, c'est l'arrivée de ces fameux acteurs privés. Elon Musk, notamment, qui a pris tout le monde de court. Il enverra, dit-il, avant la fin de l'année, des touristes dans l'espace avec SpaceX, dont on parle beaucoup. Et à la différence des autres, lui, il propose plusieurs jours en orbite autour de la Terre. C'est un pari un peu fou qu'il est en train de réussir, Xavier Pascaux.
Oui, et ça, je crois qu'il faut mettre l'accent sur le fait qu'il y a plusieurs types de tourisme dans l'espace. Voilà. Il y a le tourisme, le saut de puce, j'allais dire, qui permet de, pendant quelques minutes, dizaines de minutes, d'expérimenter la microgravité, mais on ne fait pas une orbite autour de la Terre, on fait simplement un vol, ce qu'on appelle suborbital. Et puis, il y a ce que propose Musk, alors qui est un peu nouveau quand même, qui est là, sur une base totalement privée, d'offrir à des individus qui paieront le prix fort, là pour le coup, d'offrir plusieurs jours en orbite autour de la Terre. Et là, on est vraiment, Jean-François ne me démentira pas, je pense, dans une expérience spatiale qui n'est pas tout à fait le cas, par exemple, pour Virgin, qui propose plutôt un vol suborbital.
Virgin Galactic, c'est Richard Branson. Lui, l'idée, c'est de faire décoller un avion spécial où serait accroché un avion supersonique qui se détacherait et arriverait à plus de 80 km d'altitude, ce qui permet une magnifique vue sur la Terre. Mais évidemment, ça ne dure pas le même temps. C'est-à-dire 90 minutes, ça dure quelques instants. Le ticket d'entrée est beaucoup moins cher. Jean-François Clairvoy, je crois que là, on tourne autour de 250 000 dollars le billet. Enfin, c'est quand même pas donné. Mais ça n'a rien à voir avec ce que propose Elon Musk et SpaceX.
Exactement. Le vol suborbital, c'est un vol qui consiste à donner suffisamment d'élan à un véhicule équipé d'un moteur fusée pour atteindre l'espace. Mais comme vous n'avez pas la vitesse horizontale pour tomber en contournant la Terre avec la même courbure, vous redescendez verticalement tout de suite. Vous êtes dans l'espace pendant environ 5 minutes. Mais vous avez le ciel noir en plein jour, vous êtes en apesanteur, vous avez une vue inouïe de la Terre en voyant sa courbure, la grosse poussée au décollage. Donc vous avez toutes les sensations du vol spatial, mais vous n'y restez que 5 minutes. Et c'est 100 fois moins cher que le vol orbital, simplement parce que l'énergie mise en jeu et 100 fois moins grande. C'est le rapport d'énergie qui se retrouve dans le rapport du prix.
Alors, après on rentrera dans le détail, il y a aussi Jeff Bezos qui a développé une technologie, Blue Origin, qui a dévoilé la cabine du New Shepard. C'est une petite fusée d'une capacité de 6 passagers qui a déjà réalisé, je crois, 7 vols d'essai et qui prévoit d'emmener aussi des passagers dans l'espace. Voilà,
c'est pas un avion orbital, hein, c'est une capsule.
C'est une capsule
que l'on met au sommet de Blue Origin d'un lanceur. Hein. Il y a soit l'avion orbital, oui, c'est-à-dire une forme d'aile de petite navette. Donc ça, c'était le choix qui a fait SpaceX, un avion fusée. Blue Origin, c'est une cabine spatiale, et SpaceX, il utilise une cabine spatiale éprouvée, maintenant, et qui est Crew Dragon, et voilà, vous voyez, il y a une hiérarchie d'un truc. Et donc Jeff Bezos ne pouvait pas être en reste par rapport à Virgin, il a senti, j'oserais dire, l'appétit lui venir, parce qu'il a des milliards, et SpaceX, qui est le challenger qui vient d'arriver, qui lui dit, oh, oh les gars, dit, moi je suis allé dans l'espace, j'ai envoyé un équipage, je desserre la station spatiale, et j'ai le lanceur économique, moi aussi je veux ma part du gâteau, parce qu'on l'a très bien dit, il y a un gros gâteau.
Alors, on va parler de ce gâteau, on va parler de l'implication aussi pour la recherche, mais on va rester dans le domaine de l'anecdotique encore quelques instants, si vous le voulez bien, si tant est que ce soit anecdotique. Je voudrais vous faire partager, par exemple, ce que dit le PDG de Voyageurs du Monde, qui a lancé, tenez-vous bien, en janvier 2007, il y a quand même plus de 10 ans, un comptoir de l'espace pour éventuellement réserver ses billets. Écoutez-le.
Il y a déjà une liste d'inscription ou de préinscription. En France, on a une quinzaine de demandes sérieuses. Bien sûr, ça reste très très cher. Mais ça reste très cher de façon possible. Avant, c'était impossible.
Voilà, avant c'était impossible, maintenant c'est possible. Et ça, c'était en janvier 2007. Donc, ce tourisme de l'espace, Jean-François Clairvoyant, on en parle comme ça, ça concerne quelques individus, mais est-ce que ça a vraiment vocation à se développer et à devenir non pas un touriste de masse, évidemment, mais quand même, est-ce qu'on verra régulièrement SpaceX s'envoler pour emmener ici 6 personnes, ici 6 autres, d'ici quelques années?
Alors, la définition simple du tourisme spatial, c'est faire connaître l'expérience du vol spatial et de l'espace à des non-professionnels. Un peu comme un passager prend l'avion en ligne pour aller visiter une contrée loin de son pays de résidence. Il y a 4 niveaux. Il y a le super luxe, oui. Il y a un japonais... Yusaku Maezawa, qui a réservé un vol en faisant un acompte de quelques dizaines de millions, pour un vol qui va coûter quelques centaines de millions de dollars. C'est un vol autour de la Lune, l'équivalent d'Apollo 8.
Autour de la Lune ?
Oui, il a réservé depuis quelques années,
et
il le fera dans les 3-4 ans, avec SpaceX. Donc, et il cherche ceux avec qui il va voler. Donc quelques centaines de millions de dollars, un ticket, pour faire le tour de la Lune.
Pour quelques Donc dizaines. C'est une réalité. Après, ça coûte des millions, mais c'est quand même une réalité. Si oui, on veut aujourd'hui s'offrir un tour de la Lune,
alors,
il suffit de payer le prix, on peut le faire.
Qui s'est planté hier, voilà, c'est le fameux spaceship.
Oui.
Lorsqu'il fonctionnera, ce sera le vaisseau censé amener des humains vers la Lune, autour de la Lune, éventuellement vers Mars dans quelques décennies. Enfin, selon Elon Musk, dans quelques années, mais ce ne sera pas avant 2030 oui. ou 40. Pour quelques dizaines de millions de dollars, comme l'ont financé déjà 8 personnes, vous l'avez dit, 8 tickets, vous êtes en orbite terrestre.
Oui.
Pour une semaine ou deux, attaché à la station ou pas. Pour quelques centaines de milliers d'euros, on en a parlé, le vol suborbital.
Oui.
Vous êtes 5 minutes dans l'espace. Et pour quelques milliers d'euros, ce sont les vols paraboliques. Vous pouvez vivre la vraie apesanteur, mais les 5 minutes, mais par petite tranche de 22 secondes à
bon,
la fois.
En attendant, moi je fais de l'ULM, mais, peut-être qu'un jour je pourrais.
Mais c'est concret, ces vaisseaux existent. Le Crew Dragon existe. À la fin de l'année, il y aura le Starliner de Boeing qui va faire la même chose.
Oui.
Donc il y a 2 nouveaux vaisseaux privés pour le vol orbital et 2 vaisseaux suborbitales qui vont aussi commencer à transporter des passagers cette année, le Spaceship 2 de Virgin Galactic et le New Shepard.
Bien, vous restez avec nous, on a encore plein de temps pour parler de tout ça, c'est absolument passionnant. On se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite avec nos invités.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, passé de 1 minute ce soir, débat absolument passionnant dans le Club des Idées sur le tourisme spatial avec cette petite musique qui vous rappelle sans doute un film célèbre, Interstellar, évidemment, qui avait rencontré un vif succès au cinéma. Alors, on est toujours avec nos invités, notamment le spationaute Jean-François Clairvoyant, Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, et Michel Chevalet, le journaliste et expert scientifique. On va continuer à parler de ces solutions pour faire du tourisme spatial qui, c'est vrai, se développe vitesse grand V. Je voudrais simplement vous faire partager ces quelques mots d'émotion du premier futur touriste français à aller dans l'espace. Il s'appelle Dominique Tessier, patron d'une PME installée à Toulouse. Et il avait acheté deux billets pour aller voler dans la navette de Richard Branson, le patron de Virgin. On en parlait tout à l'heure. C'était en septembre 2010.
Là, il y a l'inauguration du Spaceport le 22 octobre, donc au Texas, où on est invité. Il faut faire un peu de sport, parce qu'il faut profiter des instants qu'on va avoir en apesanteur, parce que ça va durer entre 4 et 7 minutes. Donc 4 minutes pour les pas chanceux, et puis 7 minutes pour ceux qui ont de la chance.
Voilà, ça c'est juste la version qui ne dure pas très longtemps. Vous en parliez tout à l'heure, Jean-François Clairvoy. Alors Michel Chevalet, est-ce que c'est donné à tout le monde de pouvoir aller dans l'espace? Je veux dire, la condition, au-delà de l'argent que ça coûte évidemment, mais la condition physique, le savoir-faire. Parce qu'une fois qu'on est dans une capsule, quelle qu'elle soit, on se retrouve tout seul alors, ou il y a des gens qui nous aident?
Alors c'est différent même d'un astronaute. Moi je parlais d'abord sur ce qui est très bien évoqué Jean-François Clairvoy, c'est les capacités, pas physiques mais intellectuelles. Mais là ils sont passagers, ils font rien.
Ah, on fait rien.
Touche pas les boutons. Oh, on touche à rien.
Mais on a quand même une formation, on est entraîné.
Alors, je crois qu'il y aura les minimums pour la sécurité. Bien, Jean-François nous en parlera. Ça pose un gros problème, hein, la sécurité.
Oui.
Et puis, il y a les capacités, disons, physiques. C'est-à-dire le système cardiovasculaire, l'équilibre, l'oreille interne. Bon, il doit y avoir des tests, une bonne visite médicale avant. Mais disons, ça s'est tout de même démocratisé. Moi, j'ai connu les premiers entraînements sur les vols, sur les Soyouz. Soyouz, c'est du viril, hein. C'est du dur, hein, croyez-moi. Et puis après, j'ai suivi de très près Jean-François Clairvoy sur la navette. Bon, j'allais dire, c'était l'astronautique pas en manche de chemise. Mais enfin, il reconnaît que lui-même, c'était beaucoup plus soft qu'au début de l'astronautique. Donc, pas de, j'oserais dire, de contre-indication particulière.
C'est une bonne chose, d'ailleurs, que les entreprises aient pris le relais des États, Xavier Pascaux, et qu'ils sont en train de prendre d'une certaine manière le pouvoir de l'espace, en tout cas de conquérir l'espace comme on partait à la conquête de l'Ouest aux États-Unis il y a quelques siècles.
Oui, il y a cette image. Alors je pense qu'il faut revenir sur les réalités quand même, hein. L'essentiel de l'activité spatiale aujourd'hui, c'est de l'argent public. Les grosses masses d'investissement, ce sont des agences spatiales comme la ZINZA, comme le CNES, comme la JAXA au Japon, et les grands programmes, notamment le grand programme lunaire qui se dessine aux États-Unis, c'est des dizaines de milliards de dollars qui vont être investis, des centaines, voire des centaines. Et ça reste quand même le lieu par excellence de l'investissement public. Maintenant, c'est vrai que ces nouvelles entreprises ont émergé avec finalement des caractéristiques d'agence. C'est-à-dire qu'elles ont à la fois des capacités en propre et une vision. Une vision, Musk veut aller sur Mars, voilà, et se distingue éventuellement de la NASA ou d'autres. Jusqu'à présent, les entreprises, c'était des sous-traitants. Ils faisaient ce que la NASA demandait techniquement, et puis vendaient le matériel, et la NASA tirait sa fusée qu'elle avait conçue. Désormais, les fusées sont conçues par ces entreprises et la NASA achète le service. Alors, ça a créé de nouvelles relations, de partenariats. Et donc, effectivement, de là à dire qu'une privatisation de l'espace, je pense que là, on va un peu vite en besogne. En revanche, bah oui, il y a des nouvelles initiatives qui n'existaient pas.
Jean-François Clairvoy, sur cette thématique des entreprises privées qui s'emparent d'une certaine manière d'un domaine qui était, c'est vrai, réservé plutôt aux États jusqu'à présent.
Alors, effectivement, pour l'orbite basse qui est maîtrisée maintenant depuis 60 ans, la NASA achète un service de transport du fret d'un côté et des astronautes de l'autre. Comme ça, elle peut se concentrer sur ce qui est plus difficile aujourd'hui, qui est l'exploration lointaine. Donc, c'est la NASA qui maîtrise aujourd'hui le programme de retour des humains vers la Lune et sur la Lune, et avec d'autres agences aussi qui étudient le vol qu'on fera dans la décennie ou deux décennies qui suivra vers Mars. Donc,
va arriver, ça, le vol vers Mars, c'est sûr.
Oui.
Et
oui,
on ira poser le pied sur Mars,
faut faire pour
comme on a posé le pied sur la Lune.
Voilà, on sait ce qu'il faut faire pour être prêt, mais on n'est pas prêt aujourd'hui. Mais on sait ce qu'il faut faire. Je pense que le premier vol habité vers Mars, à mon avis, ce sera dans les années 30, sans le poser.
Oui.
Parce que entre aller vers Mars, tourner autour, revenir, et rajouter la descente et remonter à la surface, c'est un gros gap budgétaire, technologique, humain. Donc, peut-être que dans les années 40, on sera prêt à se poser.
Et au-delà de la prouesse, ça a un intérêt scientifique d'aller tourner autour de Mars ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est surtout des robots qu'on envoie. Oui, d'ailleurs, les robots recherchent des traces de vie, recherchent le meilleur endroit où emmener un jour des humains, parce qu'une fois sur place, les humains seront beaucoup plus efficaces pour la recherche in situ. Et dans un premier temps, ils télécommanderont peut-être des robots depuis l'orbite martienne. C'est pour ça que certains Européens, dans l'ISS, ont télécommandé depuis l'ISS des robots sur Terre pour étudier cette capacité qu'auront des humains autour de Mars, dans le futur, de télécommander des robots à la surface, qui seront donc beaucoup plus efficaces que les commandes qu'on envoie depuis la Terre, qui font qu'on avance très lentement. Pour vous donner juste un chiffre, le rover d'Apollo 17 Gene Cernan et Jack Schmitt ont parcouru 30 km en 3 jours.
Oui.
Ces 30 km, les robots Spirit et Opportunity, il leur a fallu 10 ans.
10 ans pour faire 30 km.
Parce qu'ils avancent très, très, très doucement. Mais lorsque vous aurez des humains sur Mars, ça va y aller, quoi.
Et quand vous entendez Elon Musk qui dit « Moi, je vais emmener les touristes sur Mars et je vais installer une colonie sur Mars parce que c'est son grand projet. » Alors, tout le monde dit « Il est un peu fou, cet homme-là. » Sauf qu'en attendant, il a développé la voiture électrique du futur. Il a développé SpaceX. Personne n'y croyait quand il s'est lancé dans l'aventure.
Ah, on l'a pris pour un fou, hein.
Michel Chevalet.
Ah, moi, je me souviens, quand on parlait aux gens du CNES, on leur disait « vous avez vu Elon Musk ?» On disait Nous, on lance à Kourou en Guyane. On verra. Oui, on l'a vu. Il y est arrivé. Il y est arrivé. Mais attention, il y est arrivé parce que c'est un type qui a des idées, qui a beaucoup d'argent. Mais il a pris les moteurs que la NASA avait déjà mis au point, les fameux moteurs Merlin, déjà. Il a ramassé tous les ingénieurs de la NASA, de Lockheed ou autre, qui étaient un peu au chômage parce qu'il n'y a plus de navette. Donc il est entouré. C'est ça, il faut bien voir tout de même. Il a su bâtir toute une structure industrielle. Et puis, il avait. C'est ça qui est bien, il avait un cap, une idée, je veux démocratiser l'espace, diviser par deux le coût en orbite, c'est tout.
C'est quoi l'idée qu'il y a derrière de vouloir démocratiser, comme dit Michel Chevalet, l'espace, Xavier Pascaud ?
C'est vraiment pour Musk, en fait, son approche de l'espace part d'une philosophie plus générale qu'il a d'apparaître comme une nouvelle génération, le leader d'une génération qui offre des solutions à des problèmes terrestre, planétaire, finalement. Alors, il ne parle pas trop, à la différence de Bezos, qui a beaucoup parlé du fait qu'il fallait trouver, le cas échéant, un moyen peut-être d'aller sur une autre planète, en même temps de protéger la Terre. Il y a toujours, on dit, il n'y a pas de plan B, finalement, il n'y a qu'un vaisseau spatial, c'est la Terre. Et bien Musk,
parce que Mars, ça ne donne pas très envie d'aller y habiter quand même.
Aujourd'hui, ça resterait très expérimental et quand même assez... assez âpre, hein, en réalité. Le seul voyage, d'ailleurs, aujourd'hui, serait un défi, parce qu'il y a des rayonnements cosmiques, par exemple, aujourd'hui. On aurait du mal, on ne sait pas exactement ce que donnerait le voyage d'êtres humains vers Mars et leur retour vers la Terre. Il y a quand même une exposition. La Terre, c'est un ensemble qui protège la vie humaine, avec la magnétosphère, etc. Ça, on sortirait de tout ça, ce serait quand même une aventure tout à fait nouvelle. Donc Musk a quand même cette idée de dire, eh bien, il faut voir un peu plus loin, on a des problèmes globaux, et moi, je suis finalement quelqu'un qui apporte une solution à ces problèmes globaux. Je parle d'écologie, je parle d'énergie, je parle d'espace et d'habitat. Tesla, tout ça se relie un peu. C'est quelqu'un qui a aussi le goût de ce qu'on appelle le transhumanisme. Enfin voilà. Donc ça participe quand même d'une vision générale. Mais évidemment, c'est aussi quelqu'un qui cherche à faire beaucoup de business avec de l'argent public.
Jean-François Clairvoy, ça restera toujours un ticket de l'ordre de plusieurs millions pour aller dans l'espace, où vous pensez qu'un jour, quand même, quand il y aura une certaine concurrence, on parle là de dizaines d'années évidemment, ça peut se démocratiser et devenir un certain produit de luxe, mais plus abordable.
Alors, les lois de la physique sont incontournables. Pour atteindre ne serait-ce que la vitesse orbitale d'environ 8 km par seconde, c'est-à-dire on traverse Paris en à peine une seconde, il faut dépenser une quantité d'énergie incontournable, qui est très importante. Pour vous dire, la navette spatiale, 2 minutes après le décollage, elle développe une puissance mécanique de 45 gigawatts. C'est-à-dire, si on pouvait la convertir en électricité, on alimente la France entière, tout utilisateur confondu, en électricité, pendant cette période-là. Et ça coûte cher, l'énergie. Donc, quand Elon Musk annonçait il y a 5 ans, j'arriverai à descendre le coût à 200 euros par personne pour aller vers Mars, oui. C'est pas possible.
C'est pas possible.
On peut descendre de quelques centaines de millions à quelques dizaines, voire quelques millions, mais ça restera quelques millions minimum pendant des décennies, pour une question d'énergie. Et sans parler de juste du coût et l'énergie, ça restera toujours risqué. Parce que lancer une fusée, c'est très difficile. Tous les constructeurs de fusées orbitales ont tous connu des échecs. Le seul qui a lancé des fusées sans connaître encore un seul échec, c'est Jeff Bezos, mais il a fait que du suborbital.
Oui.
C'est-à-dire 100 fois moins énergétique, 100 fois moins difficile, entre guillemets, que le vol orbital.
Et Jeff Bezos, je rebondis sur ce que vous dites, dites-moi si je me trompe, mais là où il a été assez bluffant, c'est qu'il a inventé une fusée qui est réutilisable, qui est conçue pour lancer une capsule en portant des touristes spatiaux sur une trajectoire sur orbitale, comme vous le dites, culminant environ quoi, 100 km à peu près au-dessus de la Terre.
Quand il a réussi le vol du New Shepard.
Donc la fusée décolle et atterrit verticalement. Elle revient se poser.
Le premier étage.
Ça, c'est incroyable.
Parce que c'est pas difficile sur le plan technique. Un ingénieur, ça le passionne. Mais on ne le fait pas parce que il faut lancer au moins 15-20 fusées par an pour que ce soit rentable. C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait en Europe. Mais lui, il l'a fait. Et quand Elon Musk est arrivé à faire avec sa fusée orbitale un peu plus tard, Jeff Bezos lui a dit « Welcome into the club », bienvenue dans le club. Et Jeff Bezos lui a répondu « Oui, mais on ne joue pas dans la même cour. » Parce que l'orbital, c'est 100 fois plus cher et 100 fois plus difficile que le suborbital, qui monte, donc le New Shepard, qui monte à 100 km et qui revient. Mais Jeff Bezos, il a tout fait nickel. À ce jour, tout ce qu'il a fait, tous ses essais, même volontairement dégradés, pour montrer que si un des parachutes se déchire sur trois, si la fusée a un problème et qu'il faut éjecter la capsule de ses touristes, vérifier que ça marche bien, tous ces modes de sauvegarde ont été démontrés.
Combien il peut emmener de passagers dans ces...
Je crois que c'est 6.
6. Et il y a quelqu'un avec eux ou ils sont tout seuls ?
Alors, a priori, il y aura peut-être un commandant de bord, mais ce n'est pas nécessaire.
Ce n'est pas nécessaire.
Parce qu'il n'y a pas de pilotage.
Michel Chevalet, on est tout seul dans la fusée.
Jean-François doit défendre les astronautes. Moi, il faut être au chômage. Oui. Moi, je crois que pour les problèmes, disons, de sécurité, et surtout ne jamais dire « ça n'arrivera jamais », parce que ce sont des systèmes tout de même très complexe.
Oui.
Je pense que s'il faut entamer une procédure de sauvegarde, même si elle est automatique, et la présence d'un homme, d'un professionnel à bord, dites, à mon avis, est nécessaire.
On est 6 passagers, on ne connaît rien à la...
Oui, mais les 2 vaisseaux suborbitaux en lice qui sont en fin d'essai, de période d'essai, et qui vont commencer, je pense, cette année à transporter des passagers payants, c'est le Spaceship 2 de Virgin Galactic, qui est un avion équipé d'un moteur fusée, et la capsule New Shepard de Blue Origin de Jeff Bezos. Mm. Cette capsule, elle monte, elle redescend verticalement. Il n'y a pas de pilotage. Il n'y a aucune action de pilotage. Mais c'est vrai qu'il y aura une personne expérimentée à bord qui aura déjà connu la pesanteur pour aider les touristes à retourner sur leur siège.
Pour peut-être servir un coup à boire, parce qu'au prix du billet, on peut peut-être avoir une petite consommation. On est d'ailleurs équipé comment dans ce cas de figure pour ce type de vol ?
Alors, au départ, les 2 concurrents suborbitales, et d'ailleurs les 2 concurrents orbitaux aussi, parce que vous savez, on parle de SpaceX, mais Boeing a un an de retard, mais ils vont avoir leur capsule privée en vol cette année, en vol d'essai, et l'année prochaine, ils commenceront à transporter des passagers. Ils voulaient au départ, ils disaient, notre capsule, elle est étanche, pas besoin de faire porter une combinaison de protection contre une dépressurisation éventuelle aux passagers à l'intérieur. Et finalement, la NASA l'a imposé. C'est pour ça que les passagers de la capsule Crew Dragon de SpaceX auront une combinaison qui se gonfle et qui protégera les astronautes à l'intérieur au cas où la cabine se dépressurise. Et dans le vol suborbital, il y a toujours la question, mais je pense qu'on ne leur fera pas porter de combinaison contre la dépressurisation.
Ça pose des problèmes d'homologation, c'est-à-dire certificat de navigabilité, comme pour un avion.
Oui.
Il faut les obtenir. Et deuxièmement, les assurances. Parce que les passagers sont assurés. Et pour le moment, elles rament les assurances. C'est-à-dire, oulala, attendez, dans les risques, oulala, là c'est du cher, c'est
Michel,
du lourd.
Michel Chevalet, vous me disiez pendant la coupure publicitaire tout à l'heure que certains acteurs vont même plus loin. Vous me parliez d'un hôtel qu'on est en train de développer.
Ah, ça c'est un vieux projet. Oui, bien
et
sûr.
Qu'on pourrait aller rejoindre de la Terre pour rester quelques jours en orbite comme ça autour de la planète Terre.
À la station spatiale, il y a un module qui a été mis, qui est un module gonflable, bigelot, et qui fonctionne donc très bien. Ouais. C'est du léger du truc, et pas cher. D'où l'idée, à partir de là, de se dire, ben, si je mets plusieurs modules, je vais les assembler toujours fixés à la station spatiale, eh bien, je vais en faire un lieu d'habitation, parce qu'il n'y a plus de place
station,
à bord.
Et donc, on va faire un hôtel gonflable.
Exactement.
Mais qui développe ce truc ?
Eh bien, c'est une société américaine, il y a un astronaute américain, c'est Axiom Space à Houston, qui envisage de faire... Mais il restera toujours le problème de l'aller-retour avec un véhicule spatial.
Vous avez Pasco ?
Oui, alors on a un exemple il y a quelques semaines, quelques jours. Le premier, alors on parle du voyage privé d'Elon Musk avec les astronautes For Innovation, InnoSpace. Il y a la NASA en 2019 a annoncé qu'elle louait la station.
Oui,
et on va avoir un premier voyage qui va se faire sans doute en 2022. À bord du Crew Dragon, donc tout ça est fait dans le cadre de la relation entre SpaceX et la NASA, et les passagers, 4 passagers sont sélectionnés, qui vont payer chacun à peu près $55 millions pour aller passer
6 à 7 jours à bord de la station.
Avec Thomas Pesquet, parce qu'il sera dans le coin à ce moment-là.
Alors, il est possible qu'il soit dans le coin, effectivement. On verra comment tout ça s'étage.
Chaque pays a une zone définie, je crois, dans la station spatiale internationale.
Alors, chaque partenaire contribue en nature par des instruments, par des modules. Mais après, à l'intérieur, tout le monde peut aller partout.
Tout le monde peut aller partout.
Ouais. Donc la NASA, en fait, a même poussé, je dirais, le soin du détail jusqu'à dire, bien voilà, sur la semaine, vous allez être facturé tant pour chaque litre d'eau consommée, tant pour chaque rouleau de papier toilette consommé, etc. Ah oui. Et donc les gens payent une facture.
Pour 55 millions de dollars, ils font en plus payer le ravitaillement.
Ça. Alors voilà, tout ça est compris et tout ça a été détaillé. Et donc on a effectivement, ce que disait Michel, hein, une approche un peu d'hôtel. Et ça, c'est la NASA, là, qui pour le coup est payée pour ça. Et là, ce n'est pas SpaceX. Et donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire aussi, ça rejoint ce que disait François tout à l'heure, c'est la NASA est en train de... Le centre de gravité du programme spatial américain gouvernemental passe de la station vers la Lune. Et effectivement, c'était aussi une forme de désengagement, en réalité, de la NASA vis-à-vis de la station, dont elle dit, bien écoutez, utilisez-la, et éventuellement, payez-nous pour le faire, et on est prêts, nous, à assurer cet avenir-là.
Cela dit, en vous écoutant les uns et les autres, il va quand même falloir à un moment que le billet se baisse un peu quand même niveau tarif et se démocratise, parce que d'abord, tous les millionnaires n'ont pas envie forcément d'aller dans l'espace, donc c'est réservé à des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont un peu aventuriers, mais à un moment, on aura fait tout le monde. Hein. Il n'est pas infini, ce marché-là, quand même.
Oh, on parle de... Enfin, des études qui ont été faites. Hein.
Moi, on parle de combien de personnes.
Bon, après, on comptait, là, c'est ce que disait Virgin, le patron de Virgin, il disait il y a à peu près 1000 personnes. Il estime qu'il y a un marché de 1000 personnes à 250 000 dollars. Ça fait un joli pactole.
Oui,
hein,
oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Jean-François Clairvoy.
Oui, c'est ça. C'est quelques milliers de personnes par an, en gros, potentiellement clients pour des vols suborbitaux à quelques centaines de milliers d'euros le ticket. Quelques dizaines de personnes potentiel par an pour le vol orbital à quelques dizaines de millions de dollars et pas quelques milliers, quelques centaines de milliers. Donc, ça reste une toute petite fraction, mais vraiment toute petite de la population qui a les moyens, donc quelques centaines de milliers ou quelques dizaines de millions d'euros pour aller dans l'espace. Et c'est des personnes qui doivent accepter un risque élevé. On estime aujourd'hui toujours à une probabilité de 1 sur 100 de perdre la vie dans un vol spatial.
C'est donc, pas mal, oui, donc ça représente un risque.
C'est considéré comme réservé à des professionnels à ce niveau-là. Donc ceux qui payent, alors aux États-Unis, c'est permis par la loi, par le droit, vous signez un abandon de recours, l'opérateur du véhicule démontre aux autorités, regardez, j'ai fait vraiment tout ce qui était possible de faire pour rendre le plus sûr possible mon vaisseau, et dans ce cas-là, le système américain permet ces opérations. En France, c'est pas possible, parce qu'en France, c'est ceux qui autorisent un vol qui sont justiciables, qui peuvent aller en...
Je crois que Michel Chevalier, vous pensez...
Voilà, très rapidement, moi je crois que c'est très intéressant ce qu'a dit Xavier Darcos. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la NASA, finalement, qui était démesurément grossie, il y a 40 000 personnes qui s'étaient endormies après son programme navette, une fois l'arrêt de la navette, boum, ils étaient vraiment... J'y suis allé plusieurs fois, les types s'emmerdaient, entre nous, ça n'avait plus rien à faire. D'où l'idée de... Il n'y avait plus d'idées. Et là, il y a eu des programmes où on dit « Allez, on va aller sur la Lune !» Non, c'est ça, on dit « Oula, on se calme, les gars !» Puis comme il y a les Chinois qui disent « Mais oui, nous, on va aller planter le drapeau !» Oh, là, les Américains ont dit « Attends, non, America first !» On va y retourner. Bon, voilà, ça a relancé l'intérêt pour la Lune. J'irais dire, sinon, s'il n'y avait pas eu ça, je crois qu'on n'y serait pas retourné. Et donc, on avait une NASA qui tournait en rond, qui se lance dans des programmes, les astéroïdes, les grandes planètes. Et puis, qui a une station spatiale qui a coûté un paquet de centaines de milliards de dollars. À vous dire qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Alors donc, on va l'occuper. Mais moi, je voulais vous dire que sur le prochain vol d'Action Fest, il va y avoir Tom Cruise.
Il y a Tom Cruise.
Qui va tourner un film à bord.
Ah oui.
Au lieu de tout reconstituer en studio.
Et qui est venu s'entraîner dans notre avion à Bordeaux.
Voilà.
Pour les vols pour l'apesanteur.
Ben voilà, Tom Cruise qui sera directement dans la station spatiale internationale pour faire son prochain film.
Ouais, alors qu'on a fait Gravity sur Terre, qui est une merveille de trucage, une merveille. Et bien là vous serez en apesanteur.
Mais ce qui est important de dire, c'est
vous avez fait un petit cadeau pour terminer. David Bowie, vous reconnaissez évidemment. Un mot pour terminer, Jean-François Clairvoy.
Oui, l'argent privé qui est mis dans les vols spatiaux, il permet de diminuer la part de l'exploration spatiale qui est financée sur fonds publics. Donc, les contribuables devraient être heureux qu'il y ait ces privés, des milliardaires qui se disent
ça profite à tout
qu'est-ce
le monde
que je fais avec mon argent, j'ai envie d'aller dans l'espace, c'est tant mieux, parce que ça réduit la part du contribuable, y compris pour la recherche, comme dans notre avion. Nos vols touristiques, tous les bénéfices de nos vols touristiques sont reversés aux vols scientifiques.
Bien. Merci infiniment, c'était absolument passionnant. On pourra en parler évidemment pendant des heures. On aura l'occasion évidemment d'en reparler à l'occasion de ces vols spatiaux de nouveaux touristes. Merci à tous les trois.
Europe 1, Julien Bugier.
Vous restez avec nous dans quelques secondes, les archives d'Europe Soir. Alors ce soir, un tout autre sujet. On remonte à 1962, le jour où Kennedy annonce l'embargo contre Cuba. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du Club des Idées, les archives maintenant. Quand le passé éclaire l'actu, 3 minutes pour comprendre. Ça s'appelle le jour où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Xavier Yvon.
Bonsoir Julien, bonsoir.
Alors,
à tous.
C'était il y a 58 ans tout juste, 3 février 62, les États-Unis décrétaient un embargo total contre Cuba. C'est le point de départ de la plus grande crise de la guerre froide.
Oui, cet embargo, c'est la rupture définitive entre les États-Unis et Cuba. La Havane s'en remet alors totalement à Moscou. L'URSS apporte son aide économique, mais aussi et surtout une protection militaire. Du matériel et des soldats sont secrètement acheminés sur l'île pendant les mois suivants, jusqu'à l'automne. Nous sommes le 22 octobre 1962. Le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, Jacques Tellier, prévient qu'il se trame quelque chose de très grave.
Branle-bas de crise à Washington aujourd'hui, où règne la plus grande confusion. Les milieux officiels maintiennent le silence qui ne précède que les très grandes décisions. Officiellement, on ne sait qu'une seule chose, c'est que M. Kennedy parlera ce soir à 7h heure américaine, c'est-à-dire minuit à Paris, sur un problème national de la plus haute importance. L'avis général est que le président annoncera une décision concernant Cuba. On entend dire, mais ceci n'est qu'un bruit, que les Américains auraient la preuve photographique que des armes offensives soviétiques auraient été débarquées ces jours-ci à Cuba.
Et en effet, JFK annonce à ses concitoyens que les Russes ont installé des missiles nucléaires à moins de 200 km des côtes américaines.
Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba as an attack.
Tout tir de missiles nucléaires depuis Cuba sera considéré comme une attaque de l'Union soviétique contre les États-Unis, dit le président américain. Et cela provoquera une riposte immédiate. La guerre nucléaire n'a jamais été aussi proche.
Oui, et pendant les jours suivants, le monde retient son souffle, Xavier.
Oui, et ce suspense, c'est Jacques Tellier qui le fait vivre à l'antenne. Il est le tout premier correspondant permanent d'Europe 1 aux États-Unis.
Tous les navires de guerre américains sont déjà en place, formant un anneau d'acier autour de l'île de Fidel Castro.
Et cet anneau d'acier, c'est le blocus maritime annoncé par le président Kennedy alors que des navires russes se dirigent vers Cuba.
L'Amérique s'est réveillée ce matin dans le suspense. Le suspense qui précède le premier incident, c'est-à-dire l'interception du premier navire chargé d'armes soviétiques et la première réaction de Moscou.
Basé à New York, Jacques Tellier suit aussi les réunions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui prennent, vous allez entendre, parfois des tournures inattendues.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies suspendra sa séance cet après-midi pour aller écouter le grand orchestre de Leningrad qui donnera dans la salle de l'Assemblée générale un concert en l'honneur du 17e anniversaire de la fondation de l'Organisation internationale.
Dingue, Xavier, un concert alors que l'on frise la Troisième Guerre mondiale.
Oui, côté américain, on se prépare pour un possible débarquement à Cuba. Des sous-marins nucléaires russes sont en route dans l'Atlantique. Le pape lance un appel à la paix. Face au vertige d'un affrontement direct, les deux grandes puissances cherchent des solutions. Le 24 octobre, deux jours après le discours de Kennedy, Jacques Tellier annonce un premier infléchissement américain.
Washington laissait percer ce matin les grandes lignes d'un marchandage éventuel, base contre base. Dans un article qui pourrait fort bien avoir été inspiré, le New York Times révèle que certains milieux officiels américains accepteraient, si les Russes démantèlent leurs bases à Cuba, de démanteler en échange des bases américaines dans des pays voisins de l'Union soviétique. Ici Jacques Tellier à New York, à vous Europe.
Les bases d'un accord ont en fait été jetées grâce à des intermédiaires informels. Le patron du Kremlin, Nikita Khrouchtchev, propose alors une sortie de crise le 27 octobre, comme le raconte le correspondant en Russie d'Europe 1, Philippe Guzins.
Eh bien, le sentiment général à Moscou ce soir est que les nouvelles propositions de M. Khrouchtchev ont modifié sensiblement la physionomie de la crise.
En échange du démantèlement des fameux missiles russes à Cuba, les États-Unis retirent les leurs d'Italie et de Turquie. Le monde respire. C'est après cette crise que le fameux téléphone rouge sera mis en place entre Washington et Moscou.
Quant à l'embargo américain, Xavier, sur Cuba, décidé il y a donc 58 ans, il est toujours en vigueur, ce qui en fait le plus long de l'histoire. Merci Xavier pour ces archives.
Europe 1, Julien Bugier.
Dans quelques secondes, le rappel de l'info et puis Émilie Mazoyer pour la musique. Salut Émilie.
Salut Monsieur Bugier, comment ça va ?
Ça va plutôt bien. Qu'est-ce qui se passe ce soir chez toi ?
Ce soir, on va parler du deuxième album d'une chanteuse que j'adore qui s'appelle Kimber Rose. Ça s'appelle Out. Ça, c'était sur son premier album. Elle s'était fait connaître avec ce genre de reprise que tu dois aimer, je pense. Voilà. Oh yeah. On est sur une très très belle voix et une artiste qui ce soir va non seulement nous parler de son nouvel album, mais va aussi nous offrir deux titres en live. Parce que dans Musique, le mercredi, c'est session acoustique.
Eh ben ouais, session acoustique le mercredi. Merci Émilie, à tout de suite. Théo Manval dans quelques secondes pour l'info. Merci de votre fidélité. À demain, 18h sur Europe.